des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture, le magazine des rencontres aussi entre les écrivains. Cette semaine, une rencontre américano-française entre deux auteurs de non-fiction, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Le français, c'est Sylvain Tesson, l'auteur de « Dans les forêts de Sibérie », prix Médicis Essai 2011, qui revient cette fois du Tibet, où il s'est mis dans le sillage d'un des plus grands photographes de nature, qui lui était parti sur les traces de la panthère des neiges. Donc il a emmené Sylvain avec lui, c'est chez Gallimard. C'est même le titre, La panthère des neiges. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour, good morning.
Good morning, exactement.
Je viens d'épuiser toutes mes capacités dans anglo-normand.
Ah oui, ça s'arrête là?
Oui, je ne parle pas les patois globaux.
Bon, on parlera en français alors avec Dave Eggers. Bonjour Dave Eggers.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur inoubliable d'une œuvre déchirante, d'un génie renversant et du prémonitoire roman Cercle sur la découverte par une jeune femme embauchée dans une entreprise de la Silicon Valley de la toute-puissance des nouvelles technologies qui imposent aux individus de renoncer de leur plein gré à leur vie privée et d'embrasser le culte de la transparence et même de l'auto-surveillance. Je salue aussi Marguerite Capelle qui sera votre interprète durant cette émission. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Roman très engagé, vous l'êtes aussi d'ailleurs en dehors de votre roman puisque vous avez créé la maison d'édition Max Sweeney's, vous avez créé le magazine littéraire The Believer, mais vous avez aussi imaginé 826 Valencia, c'est ça le nom de l'association?
Oui, oui.
C'est une adresse.
It's the address in San Francisco.
Oui, c'est l'adresse à San Francisco.
Et cette association permet quoi exactement? C'est un centre d'écriture.
It gives a safe place for young people to write.
C'est un endroit en sécurité, un refuge pour que les jeunes puissent écrire, s'exprimer, se faire exister grâce à l'écrit.
Voilà, à travers de nombreuses villes américaines.
Yeah, it's in 8 cities in the US.
Villes aux États-Unis.
And there are centers like it, about 52
more all over
the world,
especially here in Europe. Aussi, 52 autres centres de ce type dans le monde, en particulier en Europe.
Voilà, vous avez obtenu le National Book Award, le prix Médicis étranger, plus tard pour Le Grand Quoi, l'histoire d'un jeune garçon du Soudan du Sud qui fuyait son pays pour échapper au sort des enfants soldats. Un livre qui n'est pas sans rapport, hein, au fond, avec Le Moine de Mocha, votre nouveau livre publié chez Gallimard et traduit de l'anglais. De l'américain par Juliette Bourdin. Ce livre raconte, c'est un récit d'aventure, une histoire vraie, raconte l'histoire de Mokhtar Al-Kanchali, un américano-yéménite qui va vouloir un jour relancer et tenter vraiment l'impossible, relancer la culture du café au Yémen, puisque le Yémen est le berceau du café. Et alors qu'il est au Yémen, il va être pris sous les bombes saoudiennes. Et c'est un récit d'aventure, je disais, extrêmement romanesque, plein de beauté, plein de bombes, d'explosions, de checkpoints, un récit de survie aussi dans cet enfer yéménite et une plongée dans l'histoire passionnante du café depuis le XVIe siècle. C'est une histoire aussi de voleurs d'ailleurs, on en reparlera. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Deux récits qui ne sont pas de la fiction, qui n'en sont pas moins aventureux, plongés dans le chaos du monde. Deux récits qui nous emmènent très loin. Sylvain Tesson, La panthère des neiges est un livre court, tendu comme un affût, procédant d'une aventure vécue à 5000 mètres d'altitude à la poursuite d'une apparition, celle de la panthère des neiges, Panthera Uncia. Parce qu'on parle latin en fait à 5000 mètres d'altitude avec Monsieur Munier,
oui,
ce photographe.
Vincent Munier, c'est un photographe hors pair. Moi je pense que c'est plutôt un artiste d'ailleurs qu'un technicien de la photographie et de l'image. Et depuis une trentaine d'années, il s'intéresse aux animaux qui peuplent des territoires très hostiles. Soit la très haute altitude ou alors les sphères arctiques et subarctiques. Grosso modo, c'est les grands carnassiers. Il y a une tétralogie du carnassier, la panthère, le loup, l'ours et le lynx. C'est la tétralogie des grands félidés, des grands fauves. Et alors, il m'a emmené dans son sillage, il m'a invité en fait, comme on vous inviterait dans une salle à
boire
manger.
Un café, oui, au Yémen.
Café, à boire un coup, à boire un mocha. Et il m'a dit, viens avec moi, je vais te montrer une bête qui s'appelle la panthère des neiges. Et surtout, il allait m'initier à quelque chose dont je n'avais strictement pas l'habitude, qui est l'art de l'affût.
L'art de l'affût, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est cet art qui consiste à attendre. Évidemment, vous proposez ça à vous, Sylvain Tesson, le grand arpenteur du monde, qui tient pas en place. D'ailleurs, vous le dites, vous-même, dans le livre, vous êtes un gigoteur, quelqu'un qui est obligé de courir le monde, qui s'oblige lui-même et qui, même quand il est à une estrade pour une conférence, finalement, parle pour dire aux gens de s'arrêter alors qu'il ne cesse de courir. C'est le paradoxe qui fonde ce livre.
Oui, enfin, je ne pense pas être le seul dans mon cas. Finalement, je ne suis jamais qu'un enfant ordinaire de mon époque. Je crois que nous sommes tous des enfants de notre siècle. Et quand on est, qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de son siècle quand on est au XXIe siècle? Ça veut dire que on est mu par un principe d'efficacité, de rapidité, d'accélération, d'hypertrophie, enfin tout ce qu'on connaît, tout ce qui peut-être nous fait, on se rend compte qu'on en souffre un peu.
Et puis d'efficacité vers quoi? Il faudrait aussi
l'efficacité vers plus d'accélération pour plus d'efficacité. On est dans une espèce de circularité absolue d'un principe de cause et d'effet. Et tout à coup, Munier, ce photographe, me propose de sortir de cette spirale. Voilà. Il me dit, viens, on va s'asseoir dans les rochers. Il fera moins 30, 4000 mètres d'altitude, en plein plateau central tibétain. Et au lieu de vivre dans le tout de suite de la folie urbaine, je vivais avec Munier pendant quelques mois dans le peut-être jamais.
Oui, pas le rien jamais en tout cas. D'ailleurs, Vincent Munier sera l'invité du Festival international du film d'aventure de La Rochelle du 11 au 17 novembre 2019. Il y présentera son film Vincent Munier, éternel émerveillé. Il sera projeté le 15 novembre. C'est un film de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hirose. Alors, il y a Vincent Munier, mais il y a aussi sa complice amoureuse, Marie, qui est là, qui réalise un film sur lui. Une sorte d'aide de camp qui s'appelle Léo. Donc, on est dans le Shangtang, c'est ça, cette région aux confins du Tibet. Et vous allez donc devoir attendre à l'affût dans une activité qui est le contraire de la chasse, puisqu'on y va pour observer la vie et non la prendre.
Oui. L'affût, c'est à la fois la chose et le lieu. Le lieu, c'est ce que vous bâtissez, quelques rochers, des couvertures de camouflage. C'est le poste de guet, ou se maintenir aux aguets, ou se maintenir en haleine. Et c'est en même temps le comportement. Être à l'affût, c'est demander au temps et à la patience de vous apporter peut-être un contentement, peut-être une récompense. C'est le contraire du voyage, en fait. Le voyage, on demande au défilement des kilomètres de vous apporter un imprévu, dont on espère la survenue par la multiplication des distances. Mais à l'affût, c'est le contraire. C'est le temps qui vous procurera peut-être le sentiment que quelque chose jaillit, apparaît et vous approfondit.
Le sentiment de l'essence, d'être, enfin. Alors très vite dans cette observation, Sylvain Tesson, observation qui ne se donne pas facilement, c'est le moins qu'on puisse dire, se déploie toute une réflexion sur le cosmos, sur le vivant, sur la vie qu'on mène, nous, les hommes de notre temps, comme vous le disiez. Les hommes et les femmes, évidemment, et sur notre rapport à la nature. Une réflexion aussi sur la littérature des autres. De nombreux auteurs sont cités, Aristote, Pline, des livres comme le livre des morts tibétains. Un autre livre aussi, Le Léopard des Neiges, écrit par Peter Mathiesen en 1978, à la suite d'un voyage dans le Dolpo, une région du Népal située à la frontière du Tibet, avec, non pas un photographe, mais un zoologiste, Georges Schaller, qui était parti observer des léopards des neiges. Oui, donc c'est ça, il y a une poursuite, il y a la poursuite de l'animal, mais aussi une poursuite de la littérature aussi.
Oui, et de la dégradation du monde. Voilà. Vous avez raison de souligner, Mathiesen, il accomplit son voyage au Dolpo népalais, dans le contrefort sud de l'Himalaya en 1973, c'est-à-dire que près de 50 ans ont passé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans? Tout a reculé. Le vivant a reculé. Les panthères disparaissent. Il n'y en a plus que 4 ou 5 000. Le monde se dégrade. Le monde s'abîme. Il n'y a qu'une espèce, finalement, animale qui va très bien. C'est l'homme. Alors, nous sommes, avec Munier, allés faire ce que Peter Mathiesen faisait en 1973, c'est-à-dire courir après une apparition fugace.
Oui, 73, et le livre était publié en 78. Ouais.
Et nous avons assisté au sursis. Ce sont maintenant des bêtes en sursis. On pense qu'il en reste entre 4 et 5 000, réparties grosso modo entre l'Afghanistan et les terres du thé chinois, et du nord au sud, entre la Mongolie et l'Himalaya. Il s'agit de dire que nous assistons, nous autres humains, depuis quelques décennies, à un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité, qui est la fin du divers, la fin de la diversité, la fin de l'efflorescence extraordinaire biologique que l'évolution a proposé à la surface du monde, et qui était ce déploiement incroyable de formes animales. Mais tout ça est fini, tout ça disparaît, tout ça s'uniformise.
Comment vivre dans ce monde où le divers disparaît, Sylvain Tesson?
Il reste des interstices, il reste des issues de secours, il reste des failles où on peut encore de temps en temps aller voir une projection, un vieil écho du vieux jardin planétaire.
Et la panthère est l'un de ses échos ?
Oui, bien sûr. Le plateau tibétain entre les monts Kunlun et l'Himalaya, ce grand plateau qui s'appelle le Changtang, qui est à 4800 mètres de moyenne d'altitude, est un de ces éclats du vitrail. On peut encore y voir des bêtes dans une sorte de steppe. C'est une espèce de jardin d'Éden, mais climatisé, quoi. Il fait moins 30 degrés. Et on a l'impression d'être dans une savane africaine avec Karen Blixen, sauf que c'est Karen Blixen avec un manteau de fourrure, quoi. Parce qu'il fait très froid.
Ça lui va bien.
Mais ça lui va bien. Mais vous avez des herbivores, les charognards, les carnassiers, toute cette espèce d'organisation extraordinaire de la vie qui s'articule dans ces très hautes steppes. Et nous, nous sommes partis les saluer et leur faire nos adieux.
Dave Eggers, vous avez décidé de vous mettre à l'affût aussi. Mais du parcours tout aussi romanesque que celle de la Panthère des Neiges, en recueillant le récit de Mokhtar Al-Kanchali, jeune Américain d'origine yéménite qui décide en 2014, envers et contre tout, de redonner au pays d'où vient sa famille, le Yémen, sa place centrale à travers le breuvage central, le café du Yémen, né au Yémen et pas en Éthiopie. Il est vraiment né au Yémen, c'est pas l'Éthiopie le berceau du café.
Well, the first coffee plants
to be. Et bien le premier plant de café
avoir été consommé.
C'était sans doute les premiers plants consommés, c'était sans doute en Éthiopie.
Farmers and goats would eat the cherries.
On disait que les paysans et les chèvres mangeaient les fruits du café et restaient éveillés toute la nuit.
But the first country to cultivate the
Mais le
plant
premier pays à avoir cultivé ces plantes,
grind it and brew it into a beverage,
à avoir moulu, à avoir préparé la boisson que nous connaissons, ça c'était des moines soufis au Yémen.
And so they used it in religious ceremonies.
Ils l'ont utilisé pour des cérémonies religieuses, pour leur élévation spirituelle, pour le culte de leur dieu.
Because they traveled so much, they
brought
the beverage all over the Middle East.
Et ils ont apporté cette boisson un petit peu partout au Moyen-Orient.
And for
et elle a eu du succès et pendant des centaines d'années, le port de Mocha était le centre, le cœur de l'exportation pour le café partout dans le monde.
And it was illegal to leave that
et il était illégal de quitter ce port avec un plant vivant. La peine de mort était appliquée ou alors on vous coupait les mains. Donc il y avait un monopole sur le marché mondial pendant plusieurs siècles.
Et ça fait partie du côté, je disais, aventureux, aventuresque du moine de Mocha. Puisque donc votre héros, hein, héros vrai, dit, je vous cite, « Je vais ressusciter l'art du café yéménite ». En fait, il veut montrer que le pays dont sa famille est originaire a autre chose à montrer au monde que les frappes de drones et la rumination du khat, cette drogue à mâcher qui fait l'un des charmes d'ailleurs de l'Arabie ex-heureuse. L'Arabie heureuse, c'est comme ça qu'on l'appelait dans l'Antiquité. C'est un livre, ce moine de Mocha, où l'on apprend tout de l'histoire du café, qu'on appelait Rayan, c'est ça, la porte du paradis.
Yeah, it, I mean, the story, I didn't know the story.
Eh bien, moi, je ne connaissais pas l'histoire du café, et Mokhtar non plus, d'ailleurs.
And you realize there's all of these
Mais on s'aperçoit qu'il y a énormément d'aventures là-dedans. Depuis les premiers voleurs hollandais qui déroba un plant au port de Mocha et le ramena à Amsterdam. Et puis planta l'île de Java. Et puis les Hollandais offrirent un plant aux Français qui fut conservé dans un jardin horticole royal avant d'être à nouveau volé, apporté en Martinique.
Saboteurs
and thieves. Et donc il y a des saboteurs, des voleurs qui ne cessent de revenir dans cette histoire, des aventuriers.
Et puis un saint aussi. Un saint qui s'appelait Baba Boudan et qui lui appelait le café le vin de l'islam. C'est beau, le vin de l'islam. Un saint musulman qui déroba au XVIe siècle sept. Alors vous avez. C'est vrai qu'on dit cerise, cherry, la cerise du café, pour dire le fruit du café, et qui les planta dans son pays. Alors, il revenait d'un pèlerinage à la Mecque, et il dérobe sept cerises de café, les apporte avec lui en Inde, les plante, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Inde est le sixième producteur mondial de café. On comprend qu'il soit appelé saint homme, économiquement parlant, en tout cas. Et c'est un livre qui nous emmène donc de Mocha, vous l'avez dit, ville portuaire du Yémen, plaque tournante du commerce du café, jusqu'à Venise, jusqu'au Brésil, et qui raconte cette longue aventure qui est, vous le dites Dave Eggers, animée par des aventuriers, presque tous des voleurs, en fait. L'histoire du moine de Moka, c'est aussi l'histoire de voleurs, de personnages, de romans picaresques, en fait.
Oui, et le développement de cette industrie du café, de ce secteur du café, est aussi extrêmement lié à celui de l'esclavage. Dans la plupart de ces pays, en Haïti, au Brésil, en Amérique centrale, souvent le café était cultivé avec des esclaves. Donc c'est aussi une histoire très sombre. Mais au Yémen,
the birthplace of coffee, the art of coffee and the quality of it had declined. L'art du café
et la qualité du café avaient décliné de façon drastique.
50 years especially,
ces dernières 50 années en particulier, et ont remplacé tous les plants de café par des plants de cattes parce que ça rapportait davantage. Et le café qu'on faisait pousser était envoyé en Arabie Saoudite comme café de très mauvaise qualité.
Because now with specialty
mais parce qu'aujourd'hui, nous nous intéressons au café de spécialité. Ici, par exemple, il y a le café Coutume à Paris. Des importateurs de ce type sont prêts à payer beaucoup plus pour du café de très bonne qualité.
Mokhtar
est alors retourné au Yémen, dans la province de Ibb, d'où vient sa famille, et il ne connaissait strictement rien à l'agriculture.
But he knew that he could be a bridge.
Mais il savait qu'il pouvait être une passerelle entre ces agriculteurs, ces producteurs et les acheteurs aux États-Unis, au Japon, en Europe.
And so he did what in the US we call fake it till you make it.
Et donc ce qu'il a fait, c'est bluffer. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, on fait semblant jusqu'à ce que vous y arriviez.
Oui, c'est aussi j'allais dire un roman. Alors c'est pas un roman du tout, hein, c'est un récit puisque toute cette histoire du café en fait est racontée à travers le parcours de ce garçon, hein, Mokhtar, qui vit en fait dans le Tenderloin, le quartier disons malfamé, sorte de cour des miracles de San Francisco, et qui va devenir finalement un businessman. C'est aussi un récit capitaliste au fond, un hommage au capitalisme pionnier américain.
It is a bit...
Oui, tout à fait.
There are... The American dream is still
le rêve américain
sometimes.
Est toujours possible, parfois.
It's a very easy country still to start
et ça
a business.
Reste un pays
nobody
où il est très facile
no.
De lancer une affaire. Personne ne vous dit jamais
and
non.
Especially if you go forward
en particulier
with blind confidence.
Si vous vous lancez avec une confiance aveugle.
Mais Dave est en train de nous dire qu'il y aura un capitalisme heureux comme il y a, voilà. Comme il y a eu une Arabie heureuse, une Feliz Arabia.
Voilà.
I can't say it's... Happy
je ne peux pas dire si
simple.
C'est heureux,
Félix, capitalisme.
Je ne peux pas vraiment dire ça.
But Mokhtar has been able to build
mais
a business.
Mokhtar a réussi à développer une entreprise.
And keep employed many dozens of people and farmers.
Et a continué à employer des dizaines de personnes, des producteurs, des trieurs à Sanaa.
During the Civil War.
Pendant la guerre civile.
And he was on the verge of success with his business
when the Saudis
began bombing Sanaa.
Il était sur le point de réussir au moment où les Saoudiens ont commencé à bombarder Sanaa et il est resté coincé dans le pays.
Much of the story is him being stuck and trying to get out.
Donc une grande partie du récit c'est aussi la manière dont il essaie de se sortir de ce piège.
Il y a des belles scènes de checkpoints, voilà, on est vraiment dans l'aventure. Alors merci à tous les deux, je le disais à l'orée de cette émission, je parlais de non-fiction si on devait un petit peu rassembler ces livres. Et c'est la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, Sylvain Tesson et Dave Eggers. Est-ce que finalement convoquer l'imagination est devenu superflu quand il s'agit d'embrasser de tels sujets, la traque d'une panthère avec un photographe, forme de Moby Dick, sauf que la baleine est à fourrure, est à poil, ou le destin de l'homme qui voulut être roi, pour reprendre le titre de Kipling, de la nouvelle de Kipling, mais Moby Dick, c'était de la fiction. Kipling, c'était de la fiction. Vous faites de la non-fiction. Donc, je me pose la question, au fond, est-ce que la fiction, maintenant, c'est devenu superflu?
C'est-à-dire que vous posez une question qui appellerait une réponse théorique générale. Mais, or, il n'y a que des cas particuliers. La réponse, elle concerne les dispositions des personnels, des auteurs. Enfin, ce que je dis est très banal, mais...
Non, mais je vous pose la question à vous. Hein,
oui, mais il y a une catégorisation. Il y a ceux qui ont l'impression que le réel leur suffit amplement. Et puis ceux qui pensent que leur trésor intérieur d'imagination et d'invention vont réussir à suppléer le caractère ordinaire ou banal du réel. Moi, quand j'entends ces histoires qui me font penser les histoires de la prospérité du café et de cette espèce de transplantation ailleurs d'un trésor du monde, qui me fait penser à ce que les moines qui ont rapporté les cocons de verre à soie en Europe pour créer des espèces de filières du capitalisme heureux, si tant est qu'il existe, tout ça me paraît appartenir à quelque chose qui est bien supérieur à l'imagination et finalement aux petites constructions intérieures qu'on pourrait articuler en inventant des fictions.
On peut inventer une fiction sur de l'historique factuel aussi, sur le verre à soie aussi.
Alors ça, c'est la voie de la sagesse.
Je disais dans le dispositif.
C'est la voie de la sagesse, c'est de se servir du fond existant, du monde, de cette espèce de chatoiement inouï, et puis d'en faire une histoire.
Mais dans votre dispositif, c'était pas ça.
Non, moi, quand je vois des panthères apparaître sur un plateau, quand je comprends que l'affût me permettra peut-être tout à coup de voir jaillir une bête dont je ne soupçonnais même pas l'existence, eh bien, je me rends compte que mes trésors d'imagination ne seront jamais à la hauteur de ce que le monde m'offre en partage.
Et après, il s'agit, et on y reviendra, de décrire le phénomène, étymologiquement parlant, de l'apparition. Et vous, Dave Eggers, parce que vous êtes aussi romancier. Cercle, par exemple, dont on parlait, ce grand roman sur la Silicon Valley et sur l'auto-surveillance, qui était très prémonitoire, c'est un roman. Là, nous sommes dans un récit. Le dispositif aussi exigeait de mettre de côté la fiction.
Every story has its correct form.
Toutes les histoires ont une forme qui leur convient.
Whether it's epic poetry,
qu'il s'agisse de poésie épique ou de fiction,
non-fiction. In this case, it happened.
Et dans ce cas précis, il se trouve que nous avons commencé à écrire quelques mois à peine après le retour de Mokhtar.
Yemen having escaped,
après s'être échappé du Yémen en traversant la mer Rouge.
And there was no need to embellish.
Et il n'y avait nul besoin d'embellir les choses.
So fantastical.
L'histoire était tellement incroyable.
All we had to do was get it down correctly.
Qu'on avait simplement besoin de l'écrire de façon juste.
And you know, make choices. You make choices
as an author.
Et de faire des choix.
Bien sûr, en tant qu'auteur, on fait des choix, on donne forme, on sélectionne.
Mokhtar is a social media user.
Mais Mokhtar utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc il documente absolument tout ce qu'il fait. Donc en tant que journaliste, c'était très facile de vérifier absolument tout. Il avait des photos, des traces photographiques, il y avait aussi de l'actualité, des reportages qui corroboraient tout ce qu'il avait raconté, tout ce qu'il avait vu, donc ça a énormément facilité mon travail. Quand j'ai écrit sur le Sud-Soudan, c'était très différent, parce que cette histoire-là s'était passée 20 ans auparavant. Mais dans ce cas précis, je pense que le pouvoir de la non-fiction, quand on sait que c'est vraiment produit, de raconter l'histoire, la véritable histoire du Yémen, et en particulier aux États-Unis, nous avons une telle ignorance sur le Yémen, on l'ignore à tel point, et les Yéménites sont extrêmement maltraités aux États-Unis, en particulier ces 10 dernières années, et particulièrement depuis l'élection de Trump. C'est très important que nous éclairions nos compatriotes à ce sujet.
Merci à tous les deux. On va continuer cette émission donc avec Dave Eggers qui publie Le Moine de Moka et Sylvain Tesson qui publie La Panthère des Neiges. On commence avec vous, Sylvain Tesson, et Dave, vous êtes le bienvenu aussi, évidemment. On écoute votre choix musical, La Panthère Rose, Sylvain Tesson.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
La Panthère rose, le thème de la Panthère rose. C'est le choix de Sylvain Tesson qui publie La Panthère des Neiges. Il est avec nous dans le temps des écrivains et avec Dave Eggers, le moine de Moka, et Marguerite Capel, l'interprète de Dave Eggers. La Panthère rose, ce thème-là, quand vous étiez à 4000 ou 5000 mètres d'altitude dans le Tibet, à l'affût, en train d'observer cette panthère, ça colle bien cette musique avec l'apparition à venir?
Mais bien sûr, jamais une coïncidence musicale n'a été aussi parfaitement en accord avec un mouvement. Quand la panthère marche, vous avez vraiment l'impression qu'il manque simplement le porte-cigarette.
Ouais, ouais.
Et puis peut-être la couleur de la robe, parce que la panthère des neiges est tachetée, c'est un camailleux de bleu. Elle prend d'ailleurs la couleur de l'environnement dans lequel elle est. Quand elle est dans la rocaille, elle est ocre. Quand elle est dans le sable, elle est jaune. Quand elle est dans les herbes, elle est grise. Et elle n'est pas rose, ça c'est vrai. Mais elle est ultra classe. C'est une impératrice, quoi. La fourrure. Elle est jazzy, la panthère. Quand elle avance, vous avez l'impression un pas feutré, puis l'autre. Et elle sinue, elle coule dans les roches. D'ailleurs, on ne la voit pas. C'est pour ça qu'elle existe.
Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, est un livre court. Je les ai tendus, comme un affût. Enfin, l'affût peut être long, d'ailleurs. Mais en tout cas, il est tendu. Ce récit procède d'une aventure vécue donc en altitude, 4-5 000 mètres, à la poursuite d'une apparition, celle de la Panthère des Neiges, Panthera Uncia, aussi appelé léopard des neiges ou once, vous utilisez le mot. Vous partez à sa recherche invité par l'un des plus grands photographes animaliers au monde, Vincent Munier, accompagné de Marie, la complice de Vincent Munier, qui réalise un film sur lui, et de Léo, aide de camp, assez romanesque, aux confins du Tibet, dans le Shangtang. Et là, vous, le gigoteur, l'arpenteur du monde, va devoir se contraindre à l'immobilité par moins 20, moins 30 parfois, pour avoir peut-être la chance d'observer cet animal. Il n'en reste plus que 4 ou 5 000. Adéquation entre l'altitude et le nombre d'individus d'ailleurs. Et très vite, dans cette observation, la panthère qui ne s'adonne pas facilement, c'est le moins qu'on puisse dire, va quand même se donner et déployer chez vous toute une réflexion sur le cosmos, sur le vivant, sur la vie qu'on mène aujourd'hui, que mènent les contemporains, sur le rapport des contemporains à la nature. 8 milliards d'humains contre 5000 panthères à peine. Une réflexion aussi, on le disait tout à l'heure, sur la littérature. Vous citez énormément Aristote, Pline, le livre des morts tibétain. On parlait tout à l'heure du Léopard des Neiges, ce grand livre écrit par Peter Mathiesen en 1978, à la suite d'un voyage lui aussi, mais dans le Népal, avec le zoologiste George Schaller. Vous citez Aristote, je le disais, vous citez Nietzsche, loin du cauchemar qui semble se dessiner pour nous. Je lis cette citation, elle est page 144. Fabuler d'un autre monde que le nôtre n'a aucun sens, c'est dans Crépuscule des idoles. La panthère nous permet-elle, Sylvain Tesson, comme un nouveau totem finalement, de mettre à distance cette vision d'horreur que nous promet l'avenir? Vous en parlez, des villes où on va vivre dans des espaces, où on va copuler, dites-vous, dans des espaces minuscules, gavés de wifi.
Oui, en tout cas, la panthère permet de mettre à distance les chimères. L'art de l'affût, c'est un art d'adhésion, de consentement au réel et à ce qui est offert. Et plus vous vous asseyez dans les rochers, plus vous cessez de circuler, plus vous regardez autour de vous, plus vous voyez le monde apparaître, jaillir dans son chatoiement, dans son mystère et dans son invisibilité, et plus vous vous dites que l'homme est cinglé. Cinglé de s'en remettre à des chimères, à des illusions, à des promesses. Alors évidemment, tout ça est très beau quand on se dit qu'il y a une représentation du réel par l'étruchement de l'art et de l'inspiration, certes. Mais ça va plus loin. Ce que propose le monde humain, quand il est dévoyé, c'est de mépriser le réel, ce qui nous échoit, et de ne vouloir considérer que ce qui est promis, et dont on n'est pas sûr. Et tout à coup, vous êtes dans les rochers, et vous vous apercevez qu'autour de vous, il y a un monde que vous ne soupçonniez pas, de tragédie, de comédie, de beauté, parfois de dureté, de souffrance, mais également d'esthétisme absolu, d'adaptation, une marqueterie, un jardin, quelque chose de merveilleux quoi, qui s'appelle le monde. Et nous sommes tellement méprisants finalement, nous sommes complètement inconséquents. Nous sommes de très mauvais conservateurs.
Sylvain Tesson, vous décrivez dans ce livre, vous parlez du froid, vous parlez des gestes à accomplir, de la souffrance de sortir du duvet chaud, à peu près chaud, pour affronter ces températures extrêmes. Comment avez-vous travaillé textuellement? Est-ce que vous avez pu prendre des notes sur le vif pour écrire ce texte, ou est-ce qu'il procède d'un travail de réanimation de la mémoire, peut-être aussi grâce aux images de Munier, qui sont absolument magnifiques? Ou est-ce qu'il y a eu des prises de notes sur le vif? Est-ce qu'on pouvait, même matériellement, prendre des notes?
Pas tellement, parce que les températures étaient parfois de moins 35 degrés, et mes doigts gerçaient, et quand je les réchauffais, ils saignaient. C'est un phénomène tout de même assez effrayant, c'est-à-dire que vous saignez de froid. Alors ça ne prédispose pas, évidemment, à ouvrir son petit calepin et à commencer à prendre des notes. De toute façon, l'encre gèle. Ou alors, la seule méthode que me permettait le froid, c'était la prise de notes très aphoristique. C'est pour ça que je me suis beaucoup souvenu pendant ce voyage, bizarrement, de Jules Renard. On n'a pas l'habitude de convoquer Jules Renard quand on est à 5000 mètres d'altitude.
C'est un nom d'animal en même temps.
Jules Renard du Tibet. Ouais. Mais c'est parce que Renard avait cette extraordinaire manière, ce génie de réduire le monde à une fulgurance aphoristique, quoi. Il voyait un papillon, il disait le billet d'amour que s'envoient les fleurs. Alors je me disais, tentons de poser des notes d'aphorismes sur ce spectacle que je vois.
Mentalement, alors.
Oui, par exemple. Et puis ensuite, quand on rentrait dans les campements tibétains, tout de même, là, c'était beaucoup plus confortable, parce qu'il y a une population qui vit jusqu'à 4500 mètres d'altitude toute l'année et qui vit dans un confort parfait.
Vous parlez de la difficulté de cette entreprise. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de Karen Blixen. Je vous cite, je me demandais si elle s'était fatiguée de la splendeur. Elle avait écrit La ferme africaine, le plus beau des livres sur le paradis terrestre. La preuve qu'on ne se lasse jamais de l'indescriptible. Le mot est dit indescriptible, c'est de la blancheur, c'est extrêmement ténu, de la roche, de la neige, quelques animaux mais qui se répètent, hein, beaucoup de yaks, le chat de palace, que j'adore beaucoup, ce petit chat aux grandes incisives et à l'œil jaune.
Oui.
C'est ça, une sorte de...
Oui, qui a l'air fou.
Qui a l'air fou.
Un chat de dessin animé électrocuté par lui-même.
Ouais. Est-ce qu'il a fallu lutter, travailler énormément, je veux dire, la phrase, pour arriver à rendre compte? On dit que les Inuits ont une trentaine de mots, ou peut-être une quarantaine de mots pour dire la neige, pour dire le blanc. Vous n'êtes pas un Inuit, vous n'êtes pas un Tibétain. Pour arriver à décrire, justement, cet indescriptible.
Mais on n'arrive pas à décrire la bête, mais on arrive à décrire que la bête n'est pas descriptible. Car la bête n'est pas uniquement indescriptible, elle est invisible. Quand elle apparaît de manière très éphémère, très fugace et très fulgurante.
Mais dans le travail de l'écrivain, justement, comment on rend compte de ça, justement?
Eh bien, le travail de l'écrivain consiste non pas à essayer de faire une peinture ou une photographie de ce que vous voyez, mais d'essayer de décrire précisément l'impossibilité de voir ce que parfois il vous est offert de surprendre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ces bêtes m'initiaient à la fugacité, au fulgurant, à l'évanescent, à l'éphémère, à la rapidité. Et quelles sont les armes que nous autres avons devant cette inconsistance de l'apparition des bêtes? C'est la patience, l'attention, l'aguet, la mise en haleine de tout son esprit et de toute son âme. C'est-à-dire, au fond, le contraire d'une vie indifférente.
Alors, il y a un grand paradoxe dans ce livre, un paradoxe que j'adore, c'est qu'en fait, vous êtes donc avec deux êtres humains, mais qui sont totalement voués au culte de la nature, hein, vraiment. Et puis finalement, cette panthère, cet animal, vous ramène à cet autre animal dont on parlait tout à l'heure, l'être humain, une femme aimée. Donc vous allez chercher la bête, et en fait c'est la femme qui est convoquée. Je voudrais qu'on écoute, Sylvain Tesson, un passage, si vous voulez bien nous le lire, de La Panthère des Neiges.
Elle lisait dans les buissons, elle comprenait les oiseaux, les insectes. Quand les oyas s'ouvraient, elle disait « C'est l'oraison de la fleur à son dieu le soleil ». Elle sauvait des fourmis emportées dans une rigole, des escargots empêtrés dans les ronces, un oiseau à l'aile brisée. Devant un scarabée, elle disait « C'est une pièce du blason, il mérite notre vénération, il est serti dans le jeu ». Un jour, à Paris, sur le parvis de Saint-Séverin, un passereau s'était posé sur sa tête et je m'étais demandé si j'étais digne d'une femme que les oiseaux prenaient pour perchoir. Elle était prêtresse, je la suivais. Nous vécûmes dans les forêts du soir, Son élevage de chevaux occupait une dizaine d'hectares des landes sur le flanc ouest d'une piste dont les ornières lui semblaient la meilleure garantie d'une vie dissimulée. Elle avait aménagé une cabane de pin derrière l'orée. Une mare constituait l'axe de la propriété. Les colverts s'y reposaient, les chevaux y buvaient. Autour, une herbe drue perçait le sable que les bêtes foulaient. Tout le confort dans la cabane. Un poêle, des livres, un fusil Remington 700, de quoi préparer le café, un auvent pour le boire et une céleri à l'odeur de sève. Un bas rouge gardait ce royaume, affûté, tendu comme un chien de Glock 17 et bien disposé à l'égard de qui se montrait poli. Il aurait égorgé le premier importun, j'en réchappais. Parfois, on s'asseyait sur les dunes, l'océan pulsait sa rage et les vagues s'écroulaient jamais lassées. Il doit y avoir un vieux différent entre la mer et la terre. Je disais des choses comme cela qu'elle n'écoutait pas.
Merci Sylvain Tesson. Donc extrait de La Panthère des Neiges. Et un peu plus loin, dans l'évocation de cette femme, on a cette phrase qui clôt le chapitre, avant un nouveau chapitre intitulé « Un chat dans une gorge ». Si je croisais la bête, mon seul amour apparaîtrait, incorporé à la panthère. J'offrirais chacune de mes rencontres à son souvenir défait. Est-ce que finalement ce passage, et puis qui embrasse totalement le livre, n'est pas l'aveu de la séparation définitive entre l'être humain et l'animal sauvage, puisque constamment, définitivement, l'animal sauvage vous ramène à l'être humain?
Ben oui, on voudrait faire l'expérience de l'altérité absolue, c'est-à-dire voir une bête et s'imprégner absolument de cette immense distance qui nous sépare de l'animal. Mais malheureusement, on ne se refait pas, quoi. On est des hommes, alors on voit une bête et on ne voit qu'un miroir dans lequel se reflète un être qui vous manque, quoi. Le monde est dépeuplé parce que vous avez des fantômes, des absents, des chagrins, et puis on fait ce qu'on peut avec son chagrin, on essaie de se consoler. Et il m'a semblé que l'apparition de ces animaux très rares, très difficiles à voir, très fugaces, très invisibles, étaient des reflets, des fantômes que je portais en moi. Tout ça est très banal, parce que c'est quelque chose de très ordinaire que de voir dans la forme des choses le reflet des êtres qui vous manquent. C'est quelque chose que tout le monde qui a vécu un deuil ou une séparation a pu éprouver un jour. Tout d'un coup, la forme de l'être, d'un être aimé apparaît. Eh bien moi, elle m'apparaissait dans cette panthère.
Et toujours des femmes, puisqu'il y a aussi votre mère qui apparaît aussi.
Oui, parce que la panthère a quelque chose de féminin, d'ailleurs, ça doit, ne serait-ce que dans l'usage du pronom.
Dave Eggers, Sylvain Tesson vient de prononcer le mot « sentinelle ». Est-ce que ça vous semble être une bonne définition de l'écrivain, qu'il fasse de la fiction ou de la non-fiction, d'être, au fond, la sentinelle qui garde peut-être... Oui, la diversité du monde, la beauté du monde, le sens du monde, l'âpreté du monde quand tant d'autres voudraient qu'il soit absolument lisse, transparent, quand peut-être l'écrivain voudrait qu'il y ait quand même des nuances dans cette transparence et si possible, moins de transparence.
We live in a time without nuance.
Nous vivons une époque sans nuance, sans complexité.
I think only within
et je pense que
the covers of a book
il n'y a que sous la couverture d'un livre qu'on est autorisé à développer cette complexité aujourd'hui. C'est le seul endroit sûr pour la nuance.
At least in my culture, everything
en tout cas dans
else,
ma culture,
irony,
tout
subtlety,
le reste, l'ironie, la subtilité,
delicacy,
la délicatesse,
is all suspected
tout ça est suspicieux, c'est à la défiance et souvent interprété de travers.
But in a book, it's our last safe place.
Les livres sont notre dernier endroit sûr.
Vous êtes d'accord, Sylvain Tesson ?
Oui, je trouve que c'est une merveilleuse définition de la littérature. Vive la pensée complexe et vive l'idée que la réduction du monde à des catégories opposées, à des dialectiques très simples, n'est absolument pas ce que nous renvoie le chatoiement.
On écoute, avant de parler du moine de Mocha, Dave Eggers, votre choix musical, vous avez choisi Drake, Started from the Bottom.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from
talking here, I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga.
Started from the bottom de Drake, c'est le choix de Dave Eggers qui publie Le Moine de Mocha chez Gallimard. Il est interprété par Marguerite Capelle et nous sommes également avec Sylvain Tesson, le tracker de Panthère des Neiges. Dave Eggers, vous avez choisi ce titre Started from the bottom, parti du plus bas. Ça semble être parfait pour dire l'itinéraire de Mokhtar, le héros vrai de votre livre.
Yeah, I asked Mokhtar what song he wanted.
Oui, en fait,
so
j'ai demandé à Mokhtar quelle chanson il voulait. Il a choisi celle-ci. En fait, c'est vraiment sa chanson emblématique.
Finally escaped from Yemen.
C'est celle qu'il jouait quand il a fini par quitter le Yémen. Il a été retenu en otage à plusieurs reprises. Sa vie a été menacée par les Houthis, par les comités populaires. Il a finalement réussi à s'échapper sur un petit bateau à travers la mer Rouge. Il a mis ses écouteurs et il a écouté cette chanson.
Alors, Le Moine de Mocha, donc c'est, je le redis, hein, d'abord un petit mot sur vous, hein, Dave Eggers, je disais, l'auteur d'une œuvre déchirante, d'un génie renversant. Et de ce livre, cercle tout à fait prémonitoire sur la découverte par une jeune femme embauchée dans une entreprise de la Silicon Valley, de la toute puissance des nouvelles technologies. Vous êtes aussi, vous avez une activité extrêmement militante, en dehors de l'écriture, qui est aussi d'ailleurs une activité militante, puisque vous êtes le fondateur de la maison d'édition Max Winnies, et que vous avez lancé l'association 826 Valencia.
It's for young people.
C'est pour les jeunes,
gives them a place to write.
Pour leur donner un endroit où ils peuvent écrire.
English language learners,
en particulier ceux qui apprennent l'anglais, c'est ce qu'on appelle les étudiants de l'anglais comme seconde langue. Ce sont les enfants d'immigrants ou immigrants eux-mêmes qui sont marginalisés dans beaucoup de villes américaines. On leur propose un refuge, un espace où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent écrire leur existence et se faire exister par l'écriture. Et on publie leur travail, on fait de belles éditions, on essaie de le diffuser, de faire en sorte que leur voix soit entendue.
Historically disenfranchised and on the outside
of society. Que les jeunes qui sont exclus de la société, quand on les publie, quand on leur offre un endroit où s'exprimer, ils ont le sentiment d'être acceptés, ils ont surtout le sentiment d'avoir le pouvoir, d'avoir une capacité d'agir.
Alors c'est un peu contradictoire, finalement, Dave Eggers, pardon, avec Le Moine de Mocha, puisque Le Moine de Mocha, c'est l'histoire, je le disais, vraie de quelqu'un qui s'appelle Mokhtar Al-Kanchali, un américano-yéménite, qui a une vie absolument romanesque, puisque il est né à San Francisco dans le quartier du Tenderloin, quartier malfamé, le quartier du crack, le quartier des prostituées, quartier où se passent des choses. D'ailleurs, c'est William Volman aussi qui parle beaucoup de Tenderloin dans son grand roman sur la prostitution aux États-Unis. Et en fait, votre personnage, votre héros qui vit, hein, Mokhtar, votre ami maintenant, a décidé, pour montrer autre chose du Yémen, autre chose au monde que les frappes de drones et peut-être les images de guerre tribale ou de ce conflit absolument abominable auquel on a assisté de loin à travers les images et les reportages, extraordinairement salutaires d'ailleurs, décide lui de ressusciter l'art du café, donc né au Yémen, dont Mocha, le grand port, était la plaque tournante du café. Donc ressusciter l'art du café, il a réussi puisque son café, le café de Mokhtar, Port of Mocha Café, a été noté 97 sur 100 par The Coffee Review et se vend en Amérique du Nord, au Japon ou au Brésil à $16 la tasse. Donc c'est vraiment le grand cru du café. C'est le plus cher des cafés vendus par la chaîne Blue Bottle. Mais au fond, il aurait pu lui-même raconter cette histoire. Et pourtant, c'est vous qui l'écrivez.
Well, that That's a flawed argument. Not everyone is
évidemment
a novelist.
Un peu biaisé, car tout le monde n'est pas romancier.
We teach writing to
nous enseignons
young people,
l'écriture à des jeunes,
but it does not mean that every
mais ça ne signifie pas que tous les importateurs de café peuvent devenir
overnight.
Des romanciers
be,
du jour au lendemain.
Absurd.
Ce serait absurde.
There's a pretty big difference between,
il y a une grande différence entre
empowering young people,
le fait de redonner aux jeunes leur capacité à agir à travers l'écrit et celle de supposer que tout être humain doit être un romancier professionnel.
Mais il fallait que ça soit vous. Ça n'a pas été compliqué de se dire « je vais prêter ma voix à Mokhtar pour raconter son histoire à lui ». Ça s'est fait avec, évidemment avec son accord, au terme de nombreuses interviews.
Yeah, I've been a journalist for
eh bien, je suis un journaliste depuis 30 ans.
This is what we do.
C'est comme ça qu'on travaille.
We
c'est
try
du journalisme.
To
ouais.
correctly and respectfully
on essaie
tell a story
de raconter une histoire de façon correcte, avec respect, et de la proposer
not,
à un public qui, sinon, resterait
and
probablement indifférent à cette histoire.
And the better we do our job,
et
the more likely
mieux nous faisons
that
notre travail, plus l'histoire
readers.
Est captivante,
and
mieux
so
nous pouvons toucher
job,
des lecteurs. Donc, en fait, c'est mon travail.
To Mokhtar,
c'est rendre
to his
justice
history,
à Mokhtar, à son histoire.
Quel était le but quand vous avez décidé de mettre votre pas dans ceux de Mokhtar Al-Khanchali, de lui prêter votre voix, Dave Eggers? Est-ce que le but était de donner à ce 21e siècle globalisé, que vous décrivez très très bien dans d'autres romans, de donner un véritable roman de formation, un Bildungsroman, picaresque, à notre époque?
I was originally... I knew Mokhtar before he
en
left
fait,
for Yemen.
J'ai rencontré Mokhtar avant qu'il parte pour le Yémen.
When he returned,
et quand il est rentré,
I was outraged by
j'étais indigné
the US government's, neglect
par
for
la
Yemeni
négligence
Americans.
Du gouvernement américain pour
when
les américano-yéménites. Quand les
Sanaa,
Saoudiens ont commencé à bombarder
Sanaa,
c'était avec des bombes américaines et avec le soutien logistique de l'armée des États-Unis. Et ils n'ont absolument rien fait pour aider à évacuer près de 10 000 américano-yéménites. Et lui s'est retrouvé coincé, complètement ignoré par son gouvernement. Et quand il est rentré, j'ai pensé écrire un papier journalistique assez court au sujet du rôle du département d'État et de la négligence pour l'humanité de leurs compatriotes américains. Mais cette histoire avait tellement d'épaisseurs différentes.
Interest in the
et même si
of coffee
à la base
before,
je ne m'étais jamais intéressé à l'histoire du café avant ça,
his story especially,
j'ai découvert que son histoire en particulier aujourd'hui,
increasingly digital time,
dans un monde de plus en plus numérique,
to the land,
ce lien avec la terre,
work of farmers,
cette dimension tactile du travail, de la production, de l'agriculture était présente dans son histoire.
I found it plainly inspiring,
et j'ai trouvé tout simplement que c'était une histoire inspirante.
He woke up one day and
cette idée qu'il se soit réveillé un matin, qu'il se soit complètement réinventé. Il était portier dans un immeuble et le lendemain, il décide qu'il sera importateur.
C'est aussi une tentative de réarmer la notion d'individu. Ça va vous plaire, Sylvain Tesson. Vous ouvrez ce livre, Dave Eggers, par une longue citation de Herzog, le grand roman de Saül Bellow. Et je lis un instant... une partie de cette citation. Et pourquoi? Parce que le monde entier pesait sur ses épaules. Un exemple, eh bien, entre autres, ce que cela signifie d'être un homme en ville, en un siècle donné, en transition, en tant qu'élément d'une masse, modifié par la science, sous l'autorité d'un pouvoir organisé, soumis à des tas de contrôles, après l'échec récent des espoirs révolutionnaires, dans une société qui, sans être une communauté, dévalue l'individu, à cause du pouvoir multiplié du nombre qui réduit le moi à l'insignifiance. Ce livre-là, c'est pour réparer ça, remettre l'individu aussi au centre. On revient à Drake, d'ailleurs, à cette épopée, toujours l'épopée d'un homme. Il y a les épopées d'un peuple, Sylvain Tesson, mais d'abord les épopées des individus.
Yeah, that quote talks about systems that
oui,
are meant to.
Cette citation parle des systèmes
and have the effect of grinding down the individual.
On l'effet d'écraser, pour l'effet d'écraser l'individu. Mais dans le travail de Bello, il y a toujours une célébration des possibles, de la possibilité de s'inventer et de vivre une
Bello's
vie magnifique. Tous les héros de Bello sont épiques.
World encompassing heroes that.
Ce sont des personnages qui prennent le monde à bras le corps et qui vivent leur vie pleinement.
Et qui surmontent
tous les obstacles qu'ils rencontrent pour devenir quelque chose de magnifique.
Saul Bellow is my favorite
Saul Bellow
writer,
est
so
mon écrivain préféré. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'utiliser cette citation.
Sylvain Tesson.
Oui, dans ces évocations que fait Dave Eggers de la nécessité de considérer la singularité des destins et d'échapper à l'écrasement de la massification. Pardon de revenir à mes marottes, mais je crois qu'il y a dans l'affût, c'est-à-dire dans la nécessité de regarder ce qu'il y a autour de soi, dans la singularité d'un champ de, oculaire, d'un champ de vision très précis, il y a quelque chose qui rejoint cette idée que nous ne pouvons plus considérer le monde globalement, comme, parce que ça c'est de la pensée abstraite, et l'écrasement, la massification, la désingularisation des choses, des êtres, des événements, elle provient de cette volonté de tout embrasser. Et l'affût, c'est au contraire l'aiguisement du regard et l'impératif de ne regarder que des facettes extrêmement précises, mais de les regarder avec toute l'épaisseur de l'attention.
Ce que va faire d'ailleurs hein, Mokhtar, il est à l'affût. Alors lui, c'est le café, son objet, la cerise, the cherry du café yéménite qu'il regarde, il observe, il travaille hein, énormément. Il est un peu comme Meunier, le photographe, puisqu'il travaille, il va passer des examens pour bien connaître toutes les sortes de cafés, étudier le terrain, la topographie, l'histoire aussi. Il se plonge. D'ailleurs, il y a un passage magnifique que je lirai tout à l'heure à la fin de cette émission. C'est une statue, en fait. Mokhtar, le destin se manifeste par une femme qui lui dit « As-tu vu la statue en face de l'hôtel Infinity où il est portier ?» Et cette statue, c'est un yéménite qui boit du café. Et là, l'histoire s'ouvre pour lui. Mais quand je parlais de roman de formation, le roman du 18e, est-ce que c'est quelque chose qui correspond pour vous au moine de Mocha ? D'écrire, peut-être à destination aussi de la jeunesse, de tous ces gamins que vous fréquentez dans vos associations, pour leur dire, voilà, on peut fabriquer son destin, et la littérature, c'est aussi fait pour ça, pour vous montrer, pour vous raconter l'histoire de quelqu'un qui se singularise, comme le disait Sylvain à l'instant.
Dans une certaine mesure,
en
particulier dans une époque sombre, comme aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de vie qui peuvent nous inspirer. En particulier quelqu'un d'aussi jeune. Mokhtar n'a que 31 ans aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui peuvent se reconnaître en lui. Être inspiré par la manière dont il s'invente dans sa vie.
Je voudrais lire Dave Eggers un extrait du Moine de Mocha. Et c'est le début, c'est l'élément qui déclenche finalement l'envie de réinventer sa vie chez votre héros vrai, hein, Mokhtar Alkanchani, une histoire de statue. Un jour, Myriam lui envoya un SMS. « Ça t'arrive de regarder de l'autre côté de la rue ?» Mokhtar ne savait pas de quoi elle parlait. « De l'autre côté de la rue, il y a la statue d'un type yéménite qui boit une grande tasse de café, lui dit-elle. » Elle sortait du bâtiment situé en face de l'Infinity, où elle venait d'effectuer une livraison pour l'épicerie de son père, et elle avait vu, dans la cour, une immense statue représentant un homme vêtu d'une dige d'achat qui portait une tasse géante à sa bouche. « Ça doit vouloir dire quelque chose, dit-elle. C'est peut-être ça ton truc. » Elle voulait dire par là « Tu as 25 ans, Mokhtar, choisis une voie. » Il travaillait à une quarantaine de mètres de cette statue, mais il ne l'avait jamais vue. Elle était monumentale avec ses 6 mètres de haut. Mokhtar avait des doutes au sujet de la fidélité historique de l'œuvre, car le personnage semblait un mélange entre un Éthiopien et un Yéménite. Et pourquoi sa dige d'achat était-elle décorée de jolies petites fleurs? Ça rappelait plutôt un rideau de douche ou une robe hawaïenne. Aucun arabe qui se respecte ne porterait de dige d'achat à fleurs. Malgré tout, Mokhtar traversa la rue pour entrer dans cet immeuble, dans ce hall situé juste en face du sien, et il y découvrit toute l'histoire et il y découvrit toute l'histoire du café aux États-Unis, présentée sous forme de photos accompagnées de légendes. Et c'est ce qui va déclencher, je le disais, l'envie de Mokhtar de partir, parcourir cette histoire du café, et de ranimer l'art ancestral du café au Yémen. On a parlé beaucoup, et il en est question dans le livre de Sylvain Tesson, je voudrais qu'on termine par ça, dans La Panthère des Neiges aussi, de la, en gros, la nature, et puis le versant hyper technologique, justement, de nos vies contemporaines. Dans Le Cercle, Dave Eggers, donc ce récit plus qu'édifiant sur la toute-puissance des nouvelles technologies, vous expliquiez, par le roman, qu'on renonce chaque jour un peu plus à sa vie privée aujourd'hui et que l'entrée dans l'ère de la transparence fait courir un risque à la démocratie. Je voudrais vous demander, quand vous voyez Facebook, par exemple en Inde, ou certains projets de Google qui disent vouloir fournir un accès Internet aux régions reculées qui peuvent permettre à un gamin qui n'a rien d'accéder à la connaissance, que leur répondez-vous quand ils disent « mais nos intentions sont bonnes » ?
I'm always dubious
eh bien,
about
évidemment,
the motives
j'ai toujours des doutes sur les motivations des grandes entreprises technologiques.
But that said,
mais ceci
Internet
étant dit,
access is
l'accès à Internet
to
est extrêmement important pour les communautés isolées
been historically cut off from
qui sont coupées
opportunities.
Historiquement de toutes
Sudan,
les opportunités. Je pense au Sud-Soudan.
Took a leap in the last 15
ils ont
years
fait
from
un bond en avant
no
les 15 dernières années. Avant, il n'y avait pas de réseau électrique, même pas du tout de réseau électrique quand la première fois où j'y suis allé. Et aujourd'hui, maintenant, les gens ont des téléphones.
On a human rights level,
et sur le plan des droits humains, en fait, c'est très important. Ça permet de signaler
attacks,
des agressions, des violations des droits humains, de partager des informations, l'accès à la santé, etc. Mais en même temps,
I am always worried about what actually motivates
je me demande toujours,
like
évidemment,
Google
je m'inquiète toujours de ce qui motive réellement des entreprises comme Google
so-called giveaway
de, d'offrir
to,
ainsi, soi-disant, un accès, d'offrir
free goods in exchange
ces
for what?
Données gratuites, mais en échange de quoi?
The transaction of the internet time has always been free things
les transactions
in exchange for
à l'époque d'Internet ont the, toujours été, on vous offre des choses gratuites, des services gratuits en échange
elimination of privacy.
De, du renoncement à la vie privée.
Sylvain Tesson, vous nous offrez ce livre La Panthère des Neiges. En échange, beaucoup de gens vont peut-être avoir envie de grimper à leur tour sur ces hauts plateaux et d'aller les photographier, les traquer. Est-ce que ce n'est pas un autre risque?
Oui, vous voulez dire qu'il y a une contradiction, il y a une
menace. Munier le dit, Munier, on l'accuse d'esthétiser la nature oui, et puis de populariser finalement ces apparitions.
Bien sûr, mais enfin, moi je ne pense pas du tout que Munier se sente responsable d'un espèce de mouvement de tourisme de masse dans le Tibet. Attention, loin de moi l'idée de dire que moi j'échappe à la figure du touriste. Je suis pour la panthère un vulgaire touriste qui va la déranger, sauf que j'essaie de le faire le moins possible. Le seul finalement signe que j'essaie d'envoyer à travers ce livre, c'est qu'il y a encore des refuges de la beauté pure, de la beauté absolue, de la réalité très belle, qui n'a pas besoin d'être augmenté par les GAFA et tous ces espèces de laborantins, de marchands de gadgets de la Silicon Valley dont nous parle Dave Eggers, devraient venir faire des stages de réalité à vénérer en allant regarder les panthères et d'arrêter de vouloir les augmenter car ils n'arriveront jamais à proposer quelque chose de virtuel qui sera supérieur à ce qui nous est offert et ce qui est menacé.
En tout cas, la panthère est un peu augmentée, bellement augmentée dans votre livre, Sylvain Tesson. Merci beaucoup. La Panthère des Neiges, c'est chez Gallimard. Merci, Dave Eggers, pour ce récit romanesque, plein de beauté, de checkpoints, de guerre, d'élévation spirituelle, d'histoire, de voyage dans le passé aussi, dans l'histoire du café. Et dans Tenderloin, j'ai envie d'aller à San Francisco voir le Tenderloin. Ça s'appelle Le Moine de Mocha. C'est chez Gallimard aussi. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci. Et merci Marguerite Capelle pour avoir interprété Dave Eggers pendant cette émission. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Bruno Mourlan à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Sylvain Tesson et Dave Eggers.